Chapitre 21. Le mouvement actif. Aumont maudissait parfois la part qu'il prenait à la Révolution. Il enviait parfois à en crier les apostats et les bas citoyens, qui pouvaient se donner tout entier à la cause. Lui, il devait trahir. Tout le jour, il devait s'efforcer de mener la vie qu'il avait toujours menée. Il devait plaisanter avec les hauts citoyens, cultiver des amitiés trompeuses, fournir un travail efficace pour une guilde qu'il exécrait chaque jour davantage. Il devait se prêter aux plaidoiries du forum, se rendre dans les fêtes hédonistes, faire semblant de partager des soucis et des préoccupations qui ne le concernaient plus depuis longtemps. Tout le jour, il mentait, tandis que son esprit était attiré comme par un aimant vers les agitations de la ville basse. Mais c'est ainsi qu'il en était. À Eleanor et Keller le lui avaient personnellement demandé. Ils avaient besoin d'un soutien fort de l'intérieur et ne pouvaient se passer de lui au poste qu'il occupait. Aumont leur fournissait des oboles, des cartes détaillées de la haute ville, des plans de bâtiments, des armes, des renseignements. Il maintenait la discipline dans le réseau de la société qui était devenue la branche active, il attribuait les rôles, ordonnait les missions. Lui se déplaçait rarement en ville basse, mais organisait les déplacements, les intermédiaires, les lieux de rencontre. Aujourd'hui, c'était Mével qu'il devait rencontrer, soi-disant par hasard, et avec laquelle il devait échanger quelques mots. Quelques mots seulement, lorsqu'il aurait voulu poser 1000 questions et débattre avec Keller. Il avait entendu parler, comme tout le monde, de la démarche du chancelier, et en avait publiquement souri, mais l'inquiétude d'un homme tel que lui montrait que le moment devenait critique, qu'il ne fallait pas laisser pourrir la situation, mais bien plutôt profiter de l'avantage que leur donnait l'insouciance des autorités. Il se heurtait aujourd'hui, comme hier, aux mêmes réticences. Emeric, par exemple, avait été très réticent à accepter l'idée d'un mouvement actif et avait longtemps développé ses arguments contre la Révolution. Et puis, il s'y était rendu. Il avait fini par admettre que sa vision était stérile et qu'il y avait peut-être dans l'action des possibilités de changement inégalées par la parole. Il avait fini par soutenir le mouvement, par adhérer intellectuellement au projet, mais il n'arrivait pas à dépasser le stade de la préparation. Pour Aumont, la préparation n'était qu'un mal nécessaire, un vaste chantier à mettre en place, certes, mais qui n'avait qu'un seul but, une seule finalité, celle d'aboutir à l'effondrement de ce système qu'il haïssait. Emeric, lui, se passionnait pour la logistique clandestine et fourmillait d'idées pour pérenniser la situation. Leur différend perdurait donc, car Emeric ne voulait pas entendre parler de passage à l'acte, du moins pas dans un avenir proche, et il laissait cette transgression dans une sorte d'imaginaire vague, où le temps réel n'avait pas de prise. Aumont fut interrompu dans ses pensées par la rencontre d'Olda, un confrère de sa guilde. Il dut faire, comme à chaque fois, un effort conscient pour se remettre dans la peau du jeune ambitieux, avide de gravir les échelons du pouvoir et de cultiver les meilleures relations sociales, afin de devenir une personne en vue. L'homme qui marchait à sa rencontre était un personnage important, qui n'était pas directement lié à lui par la voie hiérarchique, mais auquel il devait le respect. Il composa un sourire charmeur et l'aborda. « Vous ne me croirez pas, mais j'étais justement en train de penser à vous par cette belle matinée pleine de promesses. Aumont, qu'y a-t-il pour votre service ? Rien, si ce n'est que l'élégance de vos filles m'a laissé rêveur l'autre soir à la représentation des réprouvés. Cela faisait fort longtemps que je n'avais pas vu la cadette, dont la beauté en clair-obscur n'a rien à envier à la radiance de ses aînés. » L'homme rit de bon cœur, amusé par le zèle que mettait Aumont à être agréable et léger, une qualité qui lui avait toujours valu l'admiration des plus jeunes et la bienveillance des plus âgés. Aumont ne parlait jamais de politique, ne vous demandait jamais de service, rebondissait gracieusement et toujours avec une parfaite éloquence à d'éventuelles attaques, et n'oubliait jamais ni le nom de votre épouse, ni la date de votre anniversaire. Il se rappelait d'une année sur l'autre le menu que lui avaient servi ses hôtes, et ne manquait jamais de faire porter les fleurs les plus rares aux personnes indisposées. « Aumont, vous a-t-on déjà dit que vous feriez un gendre idéal ?» Aumont affecta de redevenir sérieux. « Près d'une centaine de fois, je pense, mais jamais je n'en ai été aussi touché. » Ils se quittèrent dans un sourire de bonne humeur, et le sourire resta accroché un moment, douloureux, sur les lèvres d'Aumont. Non, il n'allait pas courtiser Catalina, la fille cadette de Holda. Il ne fumerait pas d'un air de connaisseur le tabac enrichi de son beau-père le soir de ses noces. Il les tuerait peut-être, ou bien il les réduirait à la misère. La tête d'Aumont se vida tout à coup. Il était un traître. Il devrait supporter le regard plein d'effroi de toutes les pucelles emmourachées de lui, de tous les beaux-pères en puissance, de tous les compagnons de beuverie, de tous les mentors qui le voyaient évoluer aujourd'hui avec attendrissement. Oh, comme il avait besoin de la ville basse en ce moment, de sa crasse, de sa misère, de ses visages édentés et bouffis, de ses enfants illettrés, de ses poches de violence et de puanteur. Comme il en avait besoin pour affermir sa main et son âme usée par le mensonge. Il eut un soupir de soulagement en voyant apparaître Mévelle au coin de la rue. Elle l'accueillit avec sa prodigalité habituelle, parlant fort et gesticulant comme une actrice de théâtre. Une bonne actrice, se dit-il, même s'il percevait à travers son jeu une infime dissonance comme un écho à son malaise. « Oh mon !» cria-t-elle. « Venez donc me présenter vos respects. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu le loisir de vous taquiner. » Il s'approcha d'elle, assez près pour ne pas être entendu des passants. Il récita le résumé qu'il avait élaboré avec soin, le maximum d'informations dans le minimum de mots. Le chancelier a demandé au conseil de faire tuer Keller et à Eleanor. Ils l'ont pris de haut et refusent de prendre la menace au sérieux, mais il n'est pas homme à abandonner la partie s'il pense que la sécurité de la haute ville est en jeu. Ils doivent redoubler de prudence et se préparer à agir. Mévelle acquiesça. Keller demande une date et une heure où l'effet de surprise serait le plus important. Il songeait à une attaque de nuit. Le cœur d'Aumont se mit à battre plus vite. La date, l'heure, l'événement prenait corps. « Dites-lui que je descendrai personnellement en ville basse pour en discuter avec lui, demain à l'heure du déjeuner. »« Mon cher Aumont, » dit Mévelle un peu plus fort, « cette fois je vous laisse partir, mais la prochaine fois vous ne vous en tirerez pas sans avoir accepté une invitation au plaisir de la chair. »« Bonne chance, Mévelle, » murmura-t-il. Elle le regarda un instant d'un air désemparé, comme si les événements la dépassaient et que sa responsabilité devenait si lourde qu'elle ne pouvait plus la porter. « La fin est proche, » dit-elle d'une voix atone. Ils se quittèrent dans une embrassade ostentatoire et Aumont pressa le pas pour arriver à l'heure à la guilde.